Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont déjà très nombreuses ce matin après l'adoption hier soir au Sénégal d'une loi permettant de réviser l'amnistie votée l'année dernière à la fin du mandat de l'ancien président Macky Sall. À l'époque, rappelez-vous, il s'agissait, disait-on, d'apaiser l'espace politique après les manifestations meurtrières entre 2021 et 2024. Et désormais, donc, depuis hier soir, les assassins, les meurtres ou encore les cas de torture liés à la répression de ces manifestations ne sont plus amnistiés. En revanche, les personnes qui ont commis des dégâts matériels continuent, elles, de bénéficier de l'amnistie. Alors, que vous inspire cette révision de la loi ? Permettra-t-elle de lutter contre l'impunité, comme l'affirme le parti au pouvoir, le PASTEF ? Ou faut-il y voir un deux poids, deux mesures, comme le dénonce l'opposition et plusieurs associations de la société civile ? On en parle, vous nous appelez. Vous nous écrivez 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions sur l'actualité. Pour commencer, Janvier est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les étudiants de RFI.
Et merci de nous écouter au Tchad. Vous avez des questions après la condamnation de Marine Le Pen, reconnue coupable de détournement de fonds publics.
Oui, la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité est-elle une application de la loi ou une décision politique comme elle le dit ? Et pourquoi la justice a-t-elle mis en place l'exécution immédiate de sa condamnation ?
Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et effectivement, Janvier, vous le disiez à l'instant, 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ce qui compromet sérieusement la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Spécialiste des questions de justice à RFI. Alors effectivement, depuis lundi, Marine Le Pen, comme tous les cadres de son parti, dénonce un procès politique.
Oui, alors il faut rappeler déjà que ce sont des juges indépendants qui ont rendu cette décision à l'issue d'un débat contradictoire qui a duré un mois et demi et puis après 6 ans d'enquête. Alors effectivement, le Rassemblement National et Marine Le Pen se sentent visés. Il faudrait mentionner, alors que ce n'est pas le seul parti du tout qui est mis en cause dans ce type de dossier de détournement de fonds européens publics via les contrats d'assistants parlementaires. Le Modem, par exemple, a déjà fait l'objet d'un procès avec la condamnation du parti, des eurodéputés, mais pas de M. Bayrou qui lui a été relaxé. Là, on en est au fait que le parquet a fait appel. Et puis, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon de LFI qui est visé par une enquête depuis 2017 sur ces mêmes faits. Des investigations lancées d'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler, dans les deux cas, par un signalement de l'eurodéputée RN Sophie Montel.
Alors, concernant Marine Le Pen, le tribunal a motivé sa décision en droit sur 152 pages. Premier point de l'argumentaire, la réalité et la gravité des détournements.
Oui, alors le tribunal l'a souligné, personne n'est jugé pour avoir fait de la politique, dit-il. Ils se sont focalisés sur l'exécution des contrats entre les assistants parlementaires et les eurodéputés. Des contrats qui ont bénéficié, souligne le Parlement, à la garde rapprochée des Le Pen en particulier. Et donc des assistants parlementaires à qui était confiée aucune tâche ou qui travaillaient en fait à temps plein finalement pour le parti, comme par exemple le garde du corps de Jean-Marie Le Pen ou Catherine Griset, la secrétaire à temps plein de Marine Le Pen, qui était censée être en même temps assistante parlementaire. Donc pour le tribunal, pas de doute, il y a eu un système organisé pour faire financer les activités du parti par les fonds européens et un système d'ampleur puisque le préjudice est estimé à 4 millions d'euros, que les faits se seraient déroulés sur 12 ans et que les détournements se seraient amplifiés dans le temps. Le tribunal qui considère aussi que Marine Le Pen était au cœur de ce système dans lequel elle s'est inscrite avec autorité et détermination, dit-il. Elle est d'ailleurs condamnée en tant que eurodéputée à l'époque, auteur principal pour des détournements à hauteur de 474 000 euros, mais elle est aussi condamnée comme chef de file du RN, comme complice par instigation pour ce rôle donc central dans ce système, selon le tribunal. Le tribunal qui souligne aussi que ce n'est pas un désaccord administratif ou un problème de compréhension, comme l'a répété encore lundi Marine Le Pen, que le parti a fait ça en toute conscience, et elle cite par exemple ce message de juin 2000, 2014 de l'ex-trésorier Valéran de Saint-Just qui disait « Nous ne nous sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen. » Donc pour le tribunal, c'est avéré. Mmh. Certes, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ça n'a jamais été au cœur des débats, mais le tribunal considère qu'il y a eu un enrichissement du parti avec un double préjudice pour le Parlement et pour les citoyens européens que nous sommes.
Oui, c'est de l'argent public.
Voilà,
hein.
Donc un préjudice financier, mais aussi de rupture d'égalité entre les partis et donc de contournement démocratique. D'ailleurs, on voit bien, Marine Le Pen n'est pas la seule, hein, c'est tout un système qui est condamné selon le tribunal, puisque 23 personnes, dont 9 eurodéputés, sont condamnées avec elle et le parti aussi.
4 ans de prison, dont 2 fermes pour Marine Le Pen, et 5 ans d'inéligibilité. Pourquoi décider d'une peine de cette peine complémentaire d'inéligibilité?
Alors, comme l'avait souligné le parquet et comme l'ont rappelé aussi les juges, en fait, eux considèrent qu'on ne peut pas parler d'immixtion de l'autorité judiciaire dans la politique, puisque les magistrats, finalement, appliquent des lois qui sont votées par qui? Par les parlementaires eux-mêmes, justement, et donc au nom des électeurs. D'ailleurs, il faut rappeler que à gauche comme à droite, plusieurs politiques ont déjà été condamnés à de telles peines, Cahuzac ou Cambadélis à gauche, Juppé, Fillon, Balkany, Sarkozy à droite. Donc ça, c'est pas très nouveau. Et en plus, alors, c'était pas obligatoire, hein, c'est un vrai choix des juges qui rappellent en fait que c'est vraiment un sens des textes et de la jurisprudence justement décidé aussi par les parlementaires, c'est-à-dire que depuis 2016, ces peines d'inéligibilité sont plutôt obligatoires, et même depuis 2017, elles ne concernent pas que les élus, par exemple, s'il y a des infractions graves comme des violences sexuelles ou des discriminations, vous pouvez aussi vous être condamné.
Mais on voit bien, Laura Martel, que ce n'est pas tant la peine d'inéligibilité qui est mise en cause, c'est plutôt son exécution provisoire, c'est-à-dire son application immédiate.
Oui, parce que là encore, c'est un choix délibéré du tribunal, il n'était pas obligé d'appliquer cette peine. Alors, le tribunal a reconnu l'importance du dilemme de cette décision, et qu'il y avait effectivement, en décidant de cette exécution provisoire, le fait que... en appel puisse être infirmée une décision alors que cette sentence d'inéligibilité finalement aurait déjà été appliquée. Mais alors, comment a été fait l'équilibre? Elle a mis en avant donc la gravité des faits qu'on a pointé, le risque de récidive, alors pas en détournant des fonds du Parlement européen, mais en détournement de fonds publics, en pointant en fait la défense mise en avant par Marine Le Pen et son camp. Alors certes, on est toujours libre de ses moyens de défense, mais le tribunal a considéré que en fait, le RN ne contestait pas tant la manière dont il avait utilisé les enveloppes, mais en fait contestait le fait que la justice ait un regard et un droit de regard sur la manière dont sont utilisées ces enveloppes et que ça puisse être des détournements. Et donc le tribunal considère que en fait le parti revendiquait une immunité au mépris de la loi et que donc, juste par le simple fait de dire « moi, je vais être candidate », demander à ce que la loi ne s'applique pas, ce qui pose un problème en justice puisqu'on est censé, vous comme moi, qu'on soit élu ou citoyen, être égaux devant la justice. Et puis, autre point, la question de la proportionnalité. On voit que le tribunal a dit, par exemple, pour Louis Alliot, les montants détournés étaient minimes. Y aurait trop un déséquilibre si on faisait une exécution provisoire par rapport au choix des électeurs. Donc, par exemple, lui n'a pas eu cette exécution provisoire, tandis que Marine Le Pen, qui était des montants beaucoup plus importants, oui. Et dernier point, en fait, le tribunal a considéré que tous ces points, plus le fait qu'une personne puisse être candidate, voire remporter l'élection présidentielle en ayant été condamnée pour des atteintes à la probité qui, normalement, sont une des choses qui peuvent empêcher d'être candidat à la présidentielle. Si vous êtes condamné pour inéligibilité, vous ne pouvez pas vous porter candidat. Là, elle a considéré que c'était un trouble politique majeur.
En tout cas, Marine Le Pen a fait appel.
Oui,
et c'est... Et la Cour d'appel de Paris a affirmé hier qu'elle examinera le dossier le plus vite possible.
Ce qui permettra finalement d'épurer les situations et de se placer complètement dans le champ judiciaire, puisque soit la peine est confirmée et effectivement, là, ça sera plus difficile
avant l'été 2026.
Exactement.
Ce qui laissera du temps.
Qui laissera un an pour
la
campagne. Et soit la peine est confirmée, effectivement, et ça sera plus difficile pour Marine Le Pen de se dire définitivement visée, soit justement, elle sera blanchie et elle pourra se présenter à cette élection.
Janvier, a-t-on répondu à vos questions? On a pris le temps de vous répondre, mais vous savez, Janvier, à travers vous, vous êtes fait, sans le savoir, le porte-parole de plusieurs auditeurs qui nous ont envoyé à peu près les mêmes questions que vous. Êtes-vous satisfait? Avez-vous tout compris?
Merci beaucoup, je vous en prie. Merci pour les spécialistes de ces questions.
Bah écoutez, Laura Martel, spécialiste des questions de justice à RFI. Merci Laura d'être venue. 10h20 à Paris, 8h20 en temps universel. On repasse au standard. 33 9 693 693 70. Bonjour Issa.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et vous avez des questions sur une fausse information qui a circulé en début de semaine sur les réseaux sociaux.
Oui, oui.
On vous écoute.
Bonjour Juan, bonjour chers auditeurs. Un faux compte se faisant passer pour France 24 a annoncé la mort du président Alassane Ouattara. Comment s'assurer qu'une information vient bien de France 24 ? Et quelles dispositions la chaîne a prises par rapport à cette fausse information ?
Oui, une fausse publication de France 24 qui a circulé effectivement lundi et qui prétendait que la chaîne avait annoncé la mort du président ivoirien. Tout est faux, à la fois la publication et le prétendu décès d'Alassane Ouattara. Bonjour Corentin Beignet.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs, le service de vérification de France 24. Dites-nous Corentin, déjà à quoi ressemblait cette fausse publication et que disait-elle exactement ?
Alors c'est une capture d'écran qui a circulé lundi, donc le 31 mars, essentiellement sur Facebook et dans des groupes WhatsApp. Elle imite un post Facebook de France 24 qui aurait annoncé ceci, je cite, « Urgent, Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara tire sa révérence à l'hôpital américain de Paris en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux de l'Eid au peuple ivoirien, apprend-on de sources proches de la famille ». À première vue, c'est assez crédible. Il y a le nom de France 24 avec le logo que nous utilisons sur Facebook. En dessous, il est écrit une minute pour signifier que le post viendrait d'être publié. Oui. Mais c'est faux, ce post n'a pas été publié par notre chaîne.
Alors, et ça nous demande ce qu'il faut faire quand on se trouve face à une capture d'écran qui semble annoncer une nouvelle aussi importante pour savoir si elle est vraie.
Il y a plusieurs réflexes à avoir, et la première chose à faire, c'est de bien remarquer qu'il s'agit d'une capture d'écran et non pas d'un lien qui renverrait directement vers la page de France 24. Ça doit suffire en fait à mettre un doute, et pour le lever, il faut aller sur la page Facebook de notre chaîne. Et lundi soir, vous aviez beau chercher, il n'y avait pas de trace d'une telle publication. Il y a un autre élément qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est de regarder comment est rédigé le post. Ici, la syntaxe est correcte, mais on peut remarquer deux fautes. Le mot « EID » est écrit en majuscule et orthographié « E-I-D ». Ah oui. Or, si vous faites une rapide recherche avec Google, tout simplement, vous voyez que sur France 24, comme la plupart des médias français, nous écrivons « AID » A-I-T-R-E-M-A-D avec un A majuscule seulement. Et puis c'est plus subtil, mais il manque aussi un tiret dans le terme « apprend-on ». Et enfin, un troisième réflexe qu'on peut suggérer, c'est d'aller voir les autres canaux de diffusion de France 24, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Une information aussi importante, si elle était vraie, serait aussi diffusée sur notre site internet et également à l'antenne avec un bandeau rouge, c'est ce qu'on appelle le ticker, c'est le petit bandeau d'information écrite en bas de l'écran. Vous pouvez donc allumer France 24 et si vous n'avez pas la télé, regardez le direct via notre site ou sur YouTube. Si vous ne voyez pas cette prétendue information à l'antenne, vous pouvez sérieusement douter que nous l'ayons jamais publiée. Je termine en soulignant ces trois conseils que je donne ici sont valables pour France 24, mais ils sont évidemment valables aussi pour tout autre média sérieux qui serait visé par une fausse publication.
Effectivement, et je précise également que la présidence ivoirienne a publié dès lundi soir à 21h temps universel des clichés, des photos montrant le président Alassane Ouattara sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Corentin Beignet, Issa, voulait savoir comment France 24, votre chaîne, a réagi à ce faux poste prétendant annoncer la mort d'Alassane Ouattara.
Alors, à France 24, on a une règle, c'est de nous adapter à la viralité de la fausse information. On regarde dans quelle mesure elle circule. Si on voit qu'un post qui cible France 24 n'est pas très partagé, on évite de faire caisse de résonance et on n'en parle pas. Par contre, dans ce cas, dans le cas de cette fausse information sur la prétendue mort d'Alassane Ouattara, il y avait une vidéo qui reprenait ce post et qui, dès lundi soir, faisait plus de 100 000 vues sur Facebook. On a donc jugé nécessaire de démentir. La chaîne a choisi de s'adapter à la forme de l'intox, c'est-à-dire de réagir là où elle circule. Nous avons donc publié des messages de démenti sur Facebook, sur WhatsApp et également sur X où cette fausse information était un peu reprise.
Issa, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Oui, vraiment ici, vraiment, ça allait bien. Merci bien, Juan.
Et merci à vous de votre fidélité. Je crois que c'est votre première participation dans l'émission, c'est ce que vous avez dit hors antenne.
Oui, oui.
Bon, tout s'est bien passé.
Oui, ça va.
Je suis vraiment satisfait. Bon, bah écoutez, merci de nous écouter à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Corentin Beigné, merci infiniment
d'être venu
dans les studios de RFI, journaliste à la rédaction des Observateurs, le service de vérification de France 24, 8h25 en temps universel. Il nous reste le temps de prendre une dernière question ce matin. On a été un peu bavard, moins de questions que d'habitude, mais bon, c'est comme ça, on est en direct. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI.
À Parakou, au Bénin, vous avez des questions concernant le Niger.
Les autorités nigériennes ont annoncé leur retrait de la force multinationale MIS qui lutte contre le djihadisme dans la région du lac Tchad.
Oui.
Et quelles sont les raisons avancées par le Niger pour justifier son retrait de la FMM?
Allez, bonne question que vous posez. C'est vrai que la FMM, la force multinationale mixte, ne pourra plus compter sur les soldats nigériens pour lutter contre le groupe Boko Haram. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI sur le Sahel, quelles explications ont donné les autorités du Niger pour justifier ce départ?
Alors, officiellement, le Niger affirme se retirer de la force multinationale mixte qui lutte contre les djihadistes dans le lac Tchad pour renforcer la sécurisation de ces sites pétroliers visés par des groupes d'armées. Donc, donner la priorité à la lutte contre le sabotage de ces sites pétroliers, un secteur vital pour son économie. Il s'agit principalement d'un néoléoduc géant qui achemine le pétrole, le brut, jusqu'au Bénin voisin. Ça, c'est la raison officielle du départ annoncé du Niger, de cette entité régionale composée de plus de 8000 hommes, venus essentiellement du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Le Niger s'en va donc. Précisons que l'entité a été créée en 1994 et réactivée en 2015 pour lutter contre les djihadistes de Boko Haram et de l'État islamique dans le secteur du lac Tchad, un lac qui chevauche les quatre pays.
Effectivement. Alors, sécuriser les sites pétroliers du Niger, ça c'est la version officielle, Serge Daniel, mais n'y a-t-il pas tout de même des raisons, on va dire, officieuses?
Ah oui, on peut se poser en tout cas la question. Déjà, le Niger avait ralenti sa participation à la force multinationale mixte depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Ce putsch avait interrompu, on se souvient, la coopération militaire entre Niamey et Abuja. Des Nigériens ont reproché au Nigeria d'avoir, après le coup d'État, poussé à une intervention militaire de la CEDEAO contre la junte de Niamey. À l'époque, un communiqué officiel accusait même le Nigeria d'abriter des forces étrangères pour déstabiliser le Niger, ce que le Nigeria a démenti. Donc, les relations entre ces deux pays voisins peut aussi justifier le départ du Niger de la force anti-djihadiste du lac Tchad. Enfin, pour coller à l'actualité, des représentants des membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entament ce mercredi, on le sait, une visite de 48 heures en Russie, la Russie, leur partenaire stratégique. Donc, renforcer les relations en matière de sécurité avec ce pays au détriment des autres alliances sécuritaires, voilà probablement également l'une des raisons du départ du Niger de cette force One.
Intéressant comme analyse, effectivement. Abdelaziz, vous avez une dernière question?
Oui, j'ai une dernière question. Est-ce que ce retrait peut avoir de réelles conséquences et sur la situation sécuritaire dans cette région?
Alors, je parle sous votre contrôle, Serge Daniel. Le Niger était l'un des principaux contributeurs de la FMM. C'est donc un coup dur pour cette force?
Ah oui, tout à fait, parce que je le disais tout à l'heure, le lac Tchad chevauche les quatre pays membres de la force. En quittant la force, le Niger ne partage plus, par exemple, ses informations en matière de lutte contre le terrorisme, des renseignements, par exemple, avec les autres pays. Elle ne bénéficiera plus, non plus de son côté également, des informations des autres pays. C'est un coup dur. La force a-t-elle un avenir? On peut se poser la question. Ensuite, si vous prenez le côté nigérien du lac Tchad, les experts expliquent que cette zone qui permet aux groupes djihadistes Boko Haram et l'État islamique notamment de faire, elle permet à ces groupes djihadistes de faire des affaires, par exemple commerce, vente et approvisionnement de produits agricoles par exemple. Et dans l'est du Niger, dans l'est, les mêmes djihadistes obligent dans des localités des populations, les populations à payer des impôts. Il y a donc risque de voir les groupes djihadistes s'installer de manière durable. Et enfin, parlons de l'avenir de la force anti-djihadiste. En fin octobre, on se souvient qu'une attaque a coûté la vie à une quarantaine de militaires tchadiens dans la région du lac Tchad. N'Djamena avait menacé de retirer de se retirer de la force. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant après le retrait annoncé du Niger, maillon important de la force? On peut effectivement se poser cette question, Aziz.
Effectivement. Merci infiniment, Serge.